Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, soyez bénis les chants. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, tu vas dire à ton voisin, voisin, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Waouh, je suis content de te voir. Je suis content de faire le culte avec toi. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une chose importante, assez importante dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir. Dis avec moi, le Saint-Esprit me conduit dans les voies de Dieu, me révèle la pensée de Dieu. Et ce matin, nous allons parler de la sixième épreuve. Dis avec moi la sixième épreuve. Et cette sixième épreuve, c'est l'épreuve de, qu'on va appeler l'épreuve du revêtement, l'épreuve de l'onction, l'épreuve de la monotonie du surplace. On va aller dans le livre de Exode, chapitre 19, versets 1 à 12. Donc, je rappelle, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de traiter le message sur les 10 épreuves que nous rencontrons sur le chemin de notre destinée. Dis avec moi, j'ai une destinée. Alléluia. Et ta destinée est glorieuse. Ta destinée, elle est puissante. Je déclare au nom de Jésus qu'au travers de ta destinée, des nations seront bénies. Au travers de ta destinée, des villes seront bénies. Au travers de ta vie sur la terre, des hommes se rappelleront qu'il y a une personne qui est arrivée sur la terre à un instant donné et qui a été une bénédiction pour le monde. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'il t'a préparé, c'est pour ça que tu es venu sur la terre. Comme Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu est venu avec un plan, il est venu avec le plan du salut de l'humanité, toi aussi, tu n'es pas un hasard sur la terre. Amen. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Dieu te connaissait avant même que tu ne viennes sur la terre et c'est pour ça qu'il a mis en toi une destinée. Amen. Et tu dois apprendre comment marcher sur ce chemin de ta destinée. Allons dans le livre de Exode, chapitre 19, versets 1 à 2. La Bible va dire ceci. Exode 19, versets 1 à 2. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Et étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Donc la Bible va nous dire que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils vont arriver dans un désert, ils vont quitter Réphidim, là où ils ont rencontré, si vous vous rappelez bien, c'était l'épreuve où ils n'avaient pas eu de l'eau. Et la Bible va dire que le peuple va commencer par être pressé par la soif. Et à cause de cette soif-là, ils vont commencer par murmurer. Et Dieu va dire à Moïse, va, prends la verge qui a servi à ouvrir la mer Rouge en deux, et marche devant, et prends 70 anciens, viens avec eux à la tente d'assignation, je vais te parler, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je vais le répandre sur ces hommes, ils vont t'aider à porter la charge du peuple. Et ensuite, maintenant, il va lui dire, il va lui indiquer un rocher que la Bible va nous révéler dans le Nouveau Testament que ce rocher, c'est Christ. Amen. Et il va dire, va, frappe le rocher et du rocher va sortir de l'eau. Et nous avons expliqué que ça, c'est la période de ta vie où tu vas te retrouver devant des besoins que seul Dieu, seul le miraculeux venant du Christ ne peut que régler. Amen. Les gens, certaines personnes qui vont rencontrer le désert 3 vont voir que dans leur famille, il y a un problème que personne, aucune personne dans le monde ne peut résoudre. Ça, c'est l'épreuve des frustrations de la foi. Là, tu dois rencontrer Christ. Et là, la Bible a dit que Moïse est allé et l'eau est sortie du rocher. Alléluia. Maintenant, dès qu'ils ont fini cette étape, ils vont arriver dans un endroit que la Bible va appeler le désert de Sinaï. Et la Bible va révéler que le peuple va camper là. La Bible dit, Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. La particularité de l'épreuve du surplace, ou l'épreuve de la monotonie, c'est que Dieu lui-même va te faire camper quelque part. Dis avec moi, Dieu va me faire camper quelque part. Voilà, il te fait camper. Et cet endroit, la Bible a dit, pour les autres, en fait, ils voyageaient. C'est comme tu quittes Montréal et tu dis, je m'en vais à Chicoutimi. Mais à cause du trajet, tu dis, bon, je vais m'arrêter à Drummondville, je vais m'arrêter à Québec. Voilà, je prends un hôtel 5 étoiles. Et puis je vais faire un bon jacuzzi, voilà. Et puis tu vas être là, voilà. Donc c'était des pauses. Et à chaque pause, ça ne durait pas. à l'épreuve où ils étaient arrêtés au désert de Sinaï, il y avait plusieurs déserts. Il y a le désert de Sinaï et il y a le désert de Sin. À Sin, ils n'ont pas duré là. Quand ils sont arrivés à Réphidim, ils n'ont pas duré là. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Sinaï, la Bible dit que Dieu les a fait camper là, non pas pendant 2 jours, ni pendant 1 semaine, ni pendant 3 jours, ou même 1 mois. Il les a fait camper là pendant 2 ans. Vous imaginez? On dit, ah Dieu, on s'en va quelque part. Voici le lieu où tu nous amènes. Voici la promesse que tu es en train de nous donner. Tu m'as dit, tu vas faire de grandes choses avec moi. Voici la destinée, les choses que tu as dit que tu vas faire au travers de moi. Ça, c'est la destination. Et quand tu commences par marcher avec Jésus, et tu vois, et le Saint-Esprit commence par te parler, il va commencer par mettre dans ton cœur des projets. Alléluia. Il va te dire, mon fils, ma fille, voici ce que je veux faire pour toi. En réalité, ces choses sont déjà écrites à l'avance. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu va inventer. Il n'y a rien qu'il va créer de nouveau. La Bible dit, il vit dans l'éternité. Avant même de te faire venir sur la terre, il avait déjà des projets de bonheur pour toi. Amen. Dis un bon amen à Jésus. Donc les projets sont déjà là. Tu n'as pas à faire générer auprès de Dieu d'autres projets. C'est vrai qu'il y a des hommes dans la Bible qui, quand ils ont fini d'accomplir leur destinée, ils avaient encore de la vigueur. Ils ont dit à Dieu, ajoute encore. Ajoute. Tellement tu m'as, j'ai vécu avec toi et j'ai fait les choses. Je veux que tu ajoutes encore. Là, Dieu va ajouter. Il peut ajouter des années. Il peut ajouter des objectifs à ta vie. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils ne vivent pas selon les plans de Dieu, ils rejettent l'appel de Dieu. Quand d'autres personnes sont trouvées fidèles, Dieu peut prendre ce qui leur était destiné à accomplir sur la terre et le donner à d'autres. Alléluia. Mais sinon, ce que Dieu a dit que tu vas faire sur la terre, tu vas le faire. Amen. Gloire à Jésus. Donc, à cette période-là, Dieu va les faire attendre. Et ils ont attendu dans un désert. Vous imaginez, ils se lèvent et on dit, Moïse, est-ce qu'on n'allait pas à Jéricho? Est-ce qu'on n'allait pas dans le territoire de la promesse? Mais regarde, depuis là, on est là. 1 mois passe. Dieu dit, restez là. 2 mois passent. Il dit, campez là. 3 mois passent. Il dit, ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est l'équivalent de ta période, de la période de la vie d'un chrétien où tu vas faire ce qu'on appelle du surplace. Tu peux être dans une activité professionnelle et ça ne bouge pas. Tu fais 4 ans dans un même emploi. Tu peux postuler à d'autres offres et c'est comme si tu n'as pas été validé pour avoir un autre emploi. Tu vas demander là, tu vas envoyer des CV. Les gens ne vont pas te répondre. Ou même si on te répond, tu fais des examens, tu échoues. Alléluia. Et ta vie professionnelle, lorsqu'elle fait du surplace, ta vie au niveau de l'église aussi peut faire du surplace. Tu peux voir qu'à des moments donnés, tu peux te retrouver dans l'église à un poste de responsabilité. Tu ne bouges pas, ça n'avance pas. Alléluia. C'est l'épreuve qu'on va appeler l'épreuve de la monotonie. Dans l'épreuve du surplace, tout va commencer par t'ennuyer. Alléluia. Un couple peut par exemple rencontrer une épreuve de surplace. C'est comme si les choses n'avancent pas. Il n'y a plus rien d'intéressant. Là, les choses autour de toi avancent. Tu peux voir d'autres personnes avancer, d'autres personnes avoir des promotions, mais toi, ça n'avance pas. Tout autour de toi semble être en train d'aller, mais tu te retrouves comme si tu as été fixé dans le temps. C'est comme si l'horloge, on a arrêté l'horloge et puis tu te retrouves au même endroit. Dis avec moi le surplace. Alléluia. Alors, cette épreuve-là, tu peux être là-dedans présentement comme tu peux le rencontrer. Amen. Mais ça cache un grand trésor. Dis avec moi un grand trésor. Lorsque Dieu t'amène à faire du surplace, c'est parce qu'il veut consciemment traiter des choses en toi. Il veut renouveler ton intelligence. Dis avec moi, il veut renouveler mon intelligence. Il veut purifier ta conscience. Parce qu'il y a un principe biblique qui dit ceci. Jésus dit, il le dit dans le livre de Matthieu, dans les évangiles, vous allez le voir. Il dit, on ne verse pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Alléluia. On ne verse pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, si on verse un vin nouveau, Dieu te donne quelque chose de nouveau. Il te permet d'avoir accès à quelque chose de nouveau si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas disposé, si tu n'as pas une capacité à accueillir le vin nouveau, la bénédiction que Dieu te donne, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, le vase va faire quoi? Va se rompre. Le vin aussi va se perdre. Alléluia. Donc, à travers l'épreuve du surplace, c'est une épreuve où Dieu, maintenant, va renouveler ton intelligence, il va renouveler ta mentalité. Dis avec moi, Dieu renouvelle ma mentalité. Dieu va renouveler ta conscience. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, lorsque Dieu veut te promettre, promouvoir, il veut envoyer la promotion dans ta vie, que ce soit au niveau de l'église, au niveau de ta vie maritale, ta vie conjugale, au niveau de ton entreprise. Il va voir, est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce qu'il n'y a pas des complexes à l'intérieur de toi? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas des complexes? Il y a des gens, par exemple, qui, dans la bénédiction que Dieu a prévue pour eux, Dieu a prévu qu'ils puissent accomplir, avoir beaucoup de projets, faire beaucoup de choses. Ça, c'est une bonne chose. Mais il se peut que dans ton enfance, depuis que tu as grandi, tu as été miné par un complexe d'infériorité. Ou dans le sens que, à cause des reproches qu'on te fait, les gens t'ont dit, toi, tu ne sais à rien, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire grand-chose, tout ce que tu fais, ça se brise, etc., etc. Or, dans la volonté de Dieu, Dieu veut te promouvoir à un poste de responsable, de dirigeant. Il va d'abord te stabiliser à un niveau donné, à un niveau inférieur. Et il va travailler à renouveler ton intelligence. Ces pensées qui viennent te dire que ce que tu fais n'est jamais bon. Il y a des gens comme ça, ils vont faire quelque chose et à leurs propres yeux, la chose n'est jamais parfaite. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Mais pourtant, la Bible dit que tu es enfant de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il engendre une personne, il doit l'amener à accepter sa nature. Alléluia. La nature de Dieu n'est pas une nature de timidité. La nature de Dieu n'est pas une nature de faiblesse. Même si, quand tu étais enfant, tu as eu de mauvaises notes à l'école, tu n'as pas été jugé, selon le monde, intelligent, on t'a fait des reproches, on t'a dit que tu ne pouvais pas aller loin, les choses de ta vie vont stagner, etc. Lorsque Dieu s'apprête à t'utiliser, il veut t'enlever, il veut t'amener à un niveau élevé, il faut d'abord qu'il prenne le temps de purifier ta conscience. Alléluia. Pourquoi c'est important? Parce que la conscience de l'homme peut limiter Dieu. Dis avec moi, ma conscience peut limiter Dieu dans son intervention, dans son action. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout, Dieu peut faire toutes choses. Mais la façon dont ta mentalité, ton raisonnement a été forgé peut être une limite pour Dieu. Alléluia. Le nouveau step. Il y a des personnes dans leur vie, quand Dieu les regarde, il voit cette personne-là, il dit, waouh, j'ai fait de cette personne un pasteur. Alléluia. Mais toi-même, tu ne sais pas. Parce que l'appel de Dieu est un appel divin. C'est un appel qui a été fait dans le ciel. Et quand tu regardes à ta vie, tu regardes à tes capacités naturelles, tu vois qu'en réalité, tu ne peux pas le faire. Il t'a appelé à être prophète, il t'a appelé à être apôtre, il peut t'appeler à être un directeur d'entreprise, quelqu'un de renommé. Ça, c'est la pensée de Dieu sur ta vie. Ça, c'est ton Canaan. Ça, c'est là où il t'envoie. Mais ta conscience peut être pour lui une limitation. Alléluia. Comment est-ce que Dieu a fait faire du surplace à Abraham? Prenons la vie d'Abraham. La Bible dit que lorsque Dieu a appelé Abraham, il va lui donner une parole. La parole qu'il lui a donnée, il dit, « Voici, je fais de toi une multitude de nations. » Dis avec moi, une multitude de nations. La multitude de nations, c'est qui? C'est Abraham qui avait beaucoup d'enfants. Et il dit, « De toi vont sortir des rois. » Mais à l'étape où Abraham s'appelait Abraham, il n'y avait rien autour de lui qui puisse même lui dire que je peux devenir père d'une multitude. Non, ça c'est dans Genèse 12, Genèse 13. Mais dans Genèse 17, Dieu va venir maintenant, il va parler à Abraham. Parce qu'il a vu que dans la pensée d'Abraham, il y avait comme une limitation. Sa pensée, sa conscience était incapable d'accepter ce que Dieu disait de lui. C'est comme ça, certaines personnes, Dieu peut te révéler ton appel, en songe, tu vas fuir. Alléluia, tu vas fuir. Il y a des destinées qui ne sont pas enfantées, qui ne sont pas mises à l'œuvre parce que la conscience de la personne n'est pas purifiée. Alléluia. Allons dans le livre de Tite, chapitre 1. Tite 1, 15 dit ceci. D'accord, suivez-moi. La Bible dit ceci, tout est pur. Dis avec moi, tout est pur. Pour ceux qui sont purs. Ah. Donc, pour que tout soit pur, il faut être déjà comment d'abord? Il faut avoir été au préalable pur. Amen. Donc, c'est comme un contenant. La conscience de l'homme est comme un contenant. Quand vous voyez, on prend par exemple un contenant ici, on prend un verre. Si à l'intérieur du verre, il y a de la saleté, je prends par exemple, je mets du café à l'intérieur du verre et je commence par verser de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir de l'eau pure? On n'aura pas de l'eau pure. Est-ce que l'eau que je verse à l'intérieur du contenant n'est pas pure? L'eau est pure. Mais à cause de la saleté à l'intérieur du contenant, l'eau que je vais renverser à l'intérieur, le résultat ne va pas être pur. Alléluia. Le résultat ne va pas être pur. Donc, il dit tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, dans le désert du surplace, Dieu, voyant la nouvelle dimension dans laquelle il t'envoie, va t'immobiliser. Il va permettre consciemment que tu sois à une même place. Et pendant cette période-là, il faut qu'il renouvelle ton intelligence. Alléluia. Et comment est-ce qu'il va renouveler ton intelligence? Par la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'eau que Dieu va envoyer à l'intérieur de ton entendement. Et il va te dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu sais que je suis avec toi? Tu dis, ah, papa, c'est vrai. Hein? Et il te dit, est-ce que tu sais que tu peux tout? Tu dis, ah, comment je peux tout? Et tu vas dire, ah, moi, je ne suis pas capable. Dieu va te dire, mais si moi, je suis avec toi, ça veut dire que tu peux tout. Alléluia. Ça, c'est la parole qui vient, qui renouvelle ton intelligence. C'est comme ça, quelqu'un qui était faible, qui ne pouvait rien, voilà, qui était tout le temps complexé. Vous le voyez, lorsqu'il réussit l'épreuve du surplace, la même personne, vous le rencontrez, il peut faire beaucoup de choses. Amen. À l'épreuve du surplace, quelque chose de puissant va t'arriver. Donc, lorsque tu passes à des périodes de ta vie et tu sens que ça ne bouge pas, les choses n'avancent pas, et tu sens que c'est comme tu es bloqué, tu dis, ah Dieu, pourquoi est-ce que les choses avancent autour de moi? Moi, c'est comme si ça ne va pas. Pourtant, j'ai la paix pourtant. Dieu va te dire, il y a quelque chose en toi que je dois traiter. Alléluia. Dis un bon amen à Jésus. Donc, l'épreuve de surplace ou de la monotonie t'annonce que tu es sur le point de passer à un autre niveau. Dis avec moi, je passe à un autre niveau au nom de Jésus. Dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3, la Bible va dire ceci. Quand les fondements sont renversés, dis avec moi les fondements, sont renversés, le juste que ferait-il? Il y a des choses dans ta vie qui sont appelées pour Dieu des fondements. Il y a des fondements d'assurance, des fondements de foi, des fondements de piété, des fondements d'amour pour Dieu. Ces fondements-là doivent demeurer fermes. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Oui, oui, des fondements d'humilité. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, il est perdu. Il y a des gens comme ça, quand, par exemple, Dieu leur donne une bénédiction, la bénédiction peut les enorgueillir. Certaines personnes, pendant qu'ils cherchaient du travail, ils étaient dans la présence de Dieu, oh Dieu, ils venaient au temps de prière. Ah, c'est le frère, c'est la sœur. C'est le temps de prière, on prie, yeah, pasteur, il faut relâcher la bénédiction. Et maintenant, la bénédiction arrive et on commence par te payer 5 000 $ le mois. Alléluia. Maintenant, tu as oublié les temps de prière. Pendant que tu te réveillais le matin, tu venais prier quand tu cherchais. Maintenant, tu as oublié. Pourquoi? Parce que le fondement de la prière, la vie de prière, Dieu ne t'a pas donné la vie de prière pour que tu aies une bénédiction. Alléluia. Quand Dieu a dit de prier, il a dit quoi? Prier sans cesse. Parce que la prière quotidienne, permanente, te permet de demeurer actif dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça te permet de demeurer éveillé. Parce que tu ne peux pas interagir avec Dieu si ce n'est à partir de ton esprit. Beaucoup d'entre nous, on cherche à voir les choses avec nos yeux physiques. Non, Dieu, lorsqu'il veut te parler, il ne te parle pas avec les choses physiques. Non, il te parle à partir de ton cœur. Il te parle de l'intérieur. Il te parle à partir de ton esprit. Donc, lorsque tu veux communier avec Dieu, il faut que ce soit ton esprit qui soit actif. Alléluia. Et c'est dans la prière que ces choses-là se maintiennent. Donc, voici quelqu'un qui a été béni. Dieu lui a donné une bénédiction. Et à cause du fait que maintenant, au niveau de sa vie professionnelle, ça va. On ne peut plus lui parler. C'est là maintenant qu'on ne commence pas à demander, voilà. On ne commence pas à se voir, on ne commence pas à voir qu'on est passé à un autre niveau. Non, tu n'es pas passé à un autre niveau. Des fondements sont renversés. Alléluia. Dis avec moi, je réussis l'épreuve du désert, du surplace. Amen, amen. Alors, il y a une tentation, avant même de te parler de, il y a des tentations dans l'épreuve du surplace. Quand on parle d'épreuve, on parle de réussite. Dis avec moi, réussite ou échec. Donc, chaque fois que tu vas rencontrer une épreuve, il va y avoir quelque chose de particulier que Dieu va te donner. Lorsque tu rencontres l'épreuve du surplace, le renouvellement de ton intelligence, de ta conscience, n'est pas le but, n'est pas l'objectif. Ce que Dieu va te donner lorsque tu rencontres l'épreuve du surplace, c'est la qualification. Dis avec moi la qualification. Ou encore le revêtement. Dis le revêtement. Le revêtement, en fait, c'est ce qui te permet de pouvoir opérer dans une nouvelle dimension avec la présence de Dieu. La Bible a dit que le peuple d'Israël, quand ils ont fini le désert, ils ont fini, Dieu était prêt. Après les 2 ans, quand il a dit au peuple, partez, la Bible a dit qu'une nuée va se lever sur le peuple d'Israël. Cette nuée-là, c'est le symbole de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le symbole du Saint-Esprit qui te recouvre. Quand il te recouvre comme ça, il te donne maintenant la capacité d'aller affronter les challenges de la nouvelle dimension dans laquelle il t'envoie. Alléluia. Parce que chaque promotion va engendrer des adversités. Oui, absolument. Que ce soit au niveau de ton travail, même pour travailler de façon excellente, est-ce que vous savez que vous avez besoin de la puissance de Dieu? Oui. Il y a des gens qui sont excellents dans leur travail. Pas parce qu'ils ont étudié très bien à l'université, non, parce que Dieu est avec eux. Pour faire un travail de façon excellente, que ce soit dans ton lieu de travail ou même à l'église, il faut que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Tu dois pouvoir être en train de flot avec l'Esprit. Alléluia. Dis avec moi le revêtement de gloire. Donc, le revêtement de gloire, c'est l'oasis du désert 6. Ça, on le voit dans le livre de Luc. Allons dans le livre de Luc. Luc, chapitre 4, versets 14 à 15, la Bible va dire ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis avec moi, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et la Bible va dire, et sa renommée se répandit tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la volonté de Dieu, lorsque Dieu veut te faire partir, te faire rentrer dans ton pays, dans ta destination promise, il va travailler à ce que le Saint-Esprit soit sur toi à un moment donné. Et dans le cas de Jésus, lorsqu'il voulait commencer son ministère, Dieu l'a fait faire du surplace. Son surplace, Dieu l'a amené d'abord dans le désert lui-même, et il est resté dans le désert pendant 40 jours. Et la Bible a dit qu'à la fin de ces 40 jours, il a été éprouvé, il a été tenté. Et quand il a fini d'être tenté, la Bible a dit qu'il a été comment? Revêtu du Saint-Esprit. Ça, c'est le revêtement de puissance. Dis avec moi le revêtement de puissance. Tu as besoin de revêtement de puissance dans chaque domaine de ta vie. Tu as besoin de revêtement. Au niveau de ton couple, tu as besoin de revêtement. Les familles qui, par exemple, sont attaquées et qui souvent sont divisées, c'est parce que peut-être l'homme dans la maison manque de revêtement. Il y a une autorité qui fait fuir les ennemis de ton mariage. Alléluia. Parce que le mariage n'est pas naturel. Hein? Est-ce que vous savez ça? Pour être marié et demeurer marié pendant les années et vivre avec dans une relation épanouie, avoir des enfants qui grandissent, qui ne sont pas tout le temps fatigués par des maladies, des événements bizarres arrivent dans le foyer, il faut qu'il y ait une protection. Alléluia. Et la Bible a dit maintenant que quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment que l'environnement a commencé par sentir son appel. Alléluia. Dis avec moi, le Seigneur me revêt au nom de Jésus. Alors pour t'expliquer le revêtement et te montrer comment tu en as besoin, simplement prenons le cas d'un policier. Est-ce que vous savez que le policier... Il est policier même s'il n'a pas son habit, son uniforme. Hein? Ou bien, quand vous voyez les policiers dans les rues, là, Ils sont policiers à la maison. Il est à la maison, voilà, il est assis sur son canapé, il est un policier. Mais imaginez qu'il sort dans la rue et puis il ne porte pas son habit de policier. Et il veut maintenant te faire, tu as brûlé un feu. Et le policier, tu vois quelqu'un comme ça qui sort sur la rue et il te dit, parquet, est-ce que tu vas t'arrêter? Tu vas dire, bon, celui-là, quel est son problème? Il n'a rien d'autre à faire. On est en été, hein, il n'a qu'à aller faire des activités sportives. Alléluia. Mais la même personne, tu le vois, il sort. Et puis, tu vois les insignes comme ça. Et surtout ici au Québec, ils sont dangereux. Ils sont redoutables. Ils connaissent ce qu'ils sont. Et ils te font comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. À cause de quoi? De son habit. Alléluia. Le revêtement, c'est ce qui fait la différence. La Bible dit que quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, au début, il avait simplement le Saint-Esprit en lui. Là, à ce moment, les problèmes peuvent venir, ils vont tourner autour de toi, ils vont te fatiguer. Alléluia. Mais de la même manière que un policier, dès qu'il met son habit, dès qu'il est revêtu, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Et les malfrats, vous voyez, quand les malfrats voient qu'il y a un barrage de policiers quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par se cacher, n'est-ce pas? Ils se cachent. Soit ils disparaissent, dans le sens que ils vont changer carrément d'itinéraire, ou ils se cachent, ils vont pas faire du bruit. Mais lorsqu'il n'y a pas le revêtement, chacun fait ce qu'il veut. Alléluia. Dis avec moi le revêtement de puissance. Donc, le revêtement de puissance, tu en as besoin. Quelqu'un, une personne qui, un père de famille qui n'a pas de revêtement, il va y avoir des difficultés dans son foyer qu'il ne peut pas résoudre. Une personne qui a une entreprise, il y a des challenges qui vont arriver au niveau économique et son entreprise peut être engloutie par les difficultés de l'environnement. Alléluia. Dis avec moi, je reçois mon revêtement au nom de Jésus. Alléluia. Alors, avant même que le revêtement n'arrive à toi, il y a une tentation. Et la tentation à laquelle tu dois prendre garde lorsque tu fais du surplace, c'est la tentation de la banalisation. Dis avec moi la banalisation. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi, je reçois mon revêtement au nom de Jésus. Ok. Allons dans le livre de Exode. Exode 32. Donc, il y a des clés, il y a des attitudes que tu dois avoir lorsque tu passes par cette épreuve et nous allons les voir une à une. Il y en a quatre grandes attitudes. Dans le livre de Exode, chapitre 32, verset 6, la Bible a dit ceci. Le lendemain, ils se levaient de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Lisons la suite. Le peuple s'assit pour faire quoi? Pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Dis avec moi, il se levait pour se divertir. Ah, mais quand on regarde très bien, est-ce que le fait de se divertir est un problème? À vue d'œil, non. Mais la Bible a dit dans le livre de 2 Corinthiens que nous avons lu lorsqu'on introduisait le message que beaucoup n'ont pas réussi leur désert. Ils n'ont pas réussi à véritablement jouir de la volonté de Dieu dans le désert, parce qu'ils ont été idolâtres. En effet, à ce moment, lorsqu'ils faisaient du surplace, ils ont créé un veau d'or. Ce n'était pas le seul péché. Mais la Bible a dit que de ce qui a déplu à Dieu, c'est ceci. Puis, ils se levaient pour se divertir. Mais quand nous allons un peu plus loin pour creuser un peu qu'est-ce que la Bible dit ici par rapport au mot divertir, tu vas comprendre. Le mot divertir vient de l'hébreu original. Bon, c'est un peu compliqué. Dis avec moi, tsachak. Tsachak. Alléluia. Mais il ne faut pas donner ça à ton enfant. Amen. Et du grec, paizo, qui signifie divertir, plaisanter, banaliser, jouer avec. Alléluia. Donc, la particularité, c'est que quand on fait du surplace, tu peux faire par exemple du surplace à l'église, tu peux faire du surplace avec les choses de Dieu. Alléluia. Tu peux faire du surplace. Il y a des gens tellement, Jésus, par exemple, la Bible a dit que les personnes qui ont été, qui n'ont pas bénéficié du ministère de Jésus en tant que fils de Dieu, c'était qui? C'était les gens de sa maison. C'était les personnes qui l'ont vu grandir. Parce que à force d'être dans un même lieu et de ne pas bouger, d'être tout le temps là, imaginez, ils sortent et puis ils voient le même désert tout le temps, ils voient les mêmes pierres chaque jour, ils marchent, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir quoi? De la monotonie. La monotonie va engendrer quoi? De l'ennui. L'ennui va engendrer la banalisation. C'est comme ça qu'on peut arriver dans même un couple où tellement tu as vu ton conjoint pendant des années que finalement tu commences par banaliser ton conjoint. Tu ne lui donnes plus le respect qui lui est dû. La Bible dit à la femme quoi? De respecter son mari. Donc, lorsque le couple peut passer, le couple passe par des temps de surplace, c'est comme tu te lèves, c'est que le couple peut devenir même ennuyeux. Tu regardes ton conjoint, peut-être ton conjoint peut même commencer par ne rien te dire. Mais c'est dans cette période-là, il faut faire attention parce qu'il y a un vin nouveau que Dieu veut envoyer dans ton couple. Alléluia. Il y a une autre dimension. Il y a des couples qui transportent des destinées. Il y a des choses, je vous assure tout. Quand Dieu ouvre mes yeux sur mon couple, je sais que nous ne sommes même pas encore arrivés quelque part. Alléluia. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont voilées. Mais Dieu ne va pas te les révéler si tu n'as les dispositions de cœur qu'il faut. Il y a des saisons de la vie. Il y a des dimensions. Lorsqu'on parle même du revêtement, c'est une épreuve que tu vas rencontrer, non pas une seule fois. Non, non, non. La Bible dit que le peuple d'Israël, ils ont rencontré ce désert plusieurs fois. Et même dans le ministère, on le rencontre. Il y a des périodes quand tu arrives à un niveau, tu veux passer. Dieu veut t'envoyer, veut augmenter des choses dans ta vie. Il va te faire du surplace. Parce que pour la prochaine dimension, il y a des dispositions dans ton cœur qu'il faut qu'il traite. Alléluia. Il y a des gens comme ça, ils aiment dormir. Ils aiment dormir. Ils dorment seulement. Jusqu'à ce que Dieu n'enlève cet amour pour le sommeil, tu peux ne pas avoir le succès qu'il veut. Un grand propriétaire d'entreprise qui passe son temps à dormir, la comptabilité va boire de l'eau. Alléluia. Là où il y a des choses, des challenges qui vont venir, toi tu dis, ah, mais pourquoi Dieu, pourtant j'ai fait. Et c'est les gens qui sont là, tu vois, tu dis, ah, mais pourtant ces personnes n'ont pas Dieu, pourquoi ils sont en train de réussir? Demande à Dieu, Seigneur, quel est mon problème? Alléluia. Donc c'est ça, la Bible va dire qu'ils vont se mettre à plaisanter, ils vont se mettre à banaliser. Donc, et la particularité, c'est que quand ils ont fait du surplace et ils ont commencé par plaisanter avec les choses de Dieu, la Bible va dire que Dieu a été attristé. Dans le sens que, dans ton service par exemple, à force de chanter, à un moment donné, tu dis, ah bon, on chante tout le temps, c'est la même chose. La chorale. Tu dis, oh bon, on ne prend plus, voilà, pourtant c'est la même chose qu'on fait. Fais attention, si tu es en train de banaliser ce que Dieu honore. Alléluia. Il ne faut pas banaliser. Il faut, quand tu fais du surplace, ce que tu fais, la façon dont tu le faisais, lorsque tu as commencé à le faire, au début, quand on t'a dit, viens, tu vas chanter à la chorale, tu étais rempli de joie, etc. Tu le faisais avec zèle. Tu savais que c'est pour Dieu que tu le faisais. Continue de le faire de la même façon. Amen. Parce que Dieu va t'élever. Alléluia. Tu ne dois pas banaliser les choses de Dieu. Ce que Dieu honore, l'église, la maison de Dieu, ce n'est pas des choses à banaliser. Amen. Dis avec moi, j'honore ce que Dieu honore. Donc, tu ne dois pas mépriser. Et on le voit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. On va lire une histoire pour te montrer comment est-ce que la familiarité peut faire en sorte que tu méprises ce que tu ne dois pas mépriser. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, ou dans un pot, dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice. donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je le prends de force. Et la suite, maintenant le verset 17, la Bible dit ceci. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia! Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Ils étaient les fils du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, c'était qui? C'était le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'est le boss des sacrificateurs, de ceux qui servent dans la maison de Dieu. Or, Dieu a dit, moi, mes offrandes, c'est des choses consacrées, c'est des choses sanctifiées. Mais les enfants d'Élie, parce qu'ils ont grandi dans la maison, ils étaient habitués tout le temps, ils étaient là. Et ce que Dieu disait, ces choses-là, il ne faut pas les toucher, il faut les respecter. Ils ont commencé par les banaliser. Ils ont commencé par mal parler de ça. Et ils vont maintenant, ils commencent par prendre les choses que Dieu a dit. Et la Bible a dit que Dieu va les maudire. Ils sont tous morts. Alléluia. Mais cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et nous allons dans le livre de... On va aller dans le livre de Jérémie 48, verset 10. Et ça va te parler de la tentation que tu dois absolument vaincre pour pouvoir recevoir ton revêtement de gloire. Jérémie 48, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons ensemble. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc la négligence, c'est quelque chose qui se manifeste pendant l'épreuve de la monotonie. Lorsque les choses commencent par t'ennuyer, lorsque les choses ne vont pas comme tu veux, fais attention à la négligence. Alléluia. Tu servais d'une certaine façon avec zèle, continue par le faire. Tant que Dieu dit c'est comme ça, il faut le faire, tu continues par le faire. Alléluia. Tu continues par le faire. Dis avec moi, le Seigneur m'aide. La deuxième attitude, c'est que tu ne dois pas te disperser. Tu dois rester focalisé. Tu dois avoir de la révérence et honorer ce que Dieu honore. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 9, la Bible va dire ceci. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons. Ne nous lassons pas de faire le bien. Dis avec moi, je ne me lasse pas de faire le bien, car je moissonnerai au temps convenable. Si je ne me relâche pas. Alléluia. Donc, lorsque la période vient et que tu vois que les choses n'avancent pas dans ton lieu de travail, pendant que tu es en train d'attendre un prochain emploi, un emploi de promotion, à l'étape où Dieu permet à ce que tu sois là, tu fais du surplace, il ne faut pas te relâcher à bien faire. Alléluia. Voilà, il ne faut pas te relâcher. Quand tu te relâches, tu commences par banaliser. Il dit que tu ne vas pas moissonner. Donc, il faut rester focalisé. Tu gardes, tu fais la même chose. Peut-être tu commençais par évangéliser. Quand tu sens que l'évangélisation, ça ne te donne plus, voilà, tu le fais tout le temps, c'est la même chose. Tu dis, Seigneur, pourtant, je veux voir plus de résultats. Continue pas à faire ce que tu fais. Alléluia. Continue pas à le faire. À un moment donné, la puissance de Dieu qui va te surprendre va venir sur toi. Alléluia. Dis avec moi, je reçois l'onction, je reçois le revêtement, je réussis l'épreuve du surplace. Lorsque les choses deviennent ennuyeuses, mais que Dieu m'a dit de faire, je continue de le faire, je continue de les honorer. Alléluia, tu continues de le faire et tu restes focalisé, tu demeures focalisé dans les choses que Dieu te dit. Deux rois, 2:10, la Bible dit ceci, Élie dit, tu demandes une chose difficile. Ça signifie que ce que tu veux voir, la gloire qui va venir, c'est quelque chose de particulier. Et quel que soit ce que tu vis, c'est-à-dire tu fais, tu vas forcément rencontrer ça. Tous ceux qui sont avec Dieu rencontrent le surplace. C'est ça. Il dit, tu demandes une chose difficile. Qu'est-ce que Élisée a demandé à son père spirituel Élie? Il dit, je veux avoir l'onction qui est sur toi. Je veux avoir la Bible. Quand tu prends la Bible, c'est comme si elle ne te dit rien. Ça ne commence pas à t'ennuyer. Or, il y a de cela des années, peut-être quand tu lis la Bible, tu es content. Les gens qui viennent à Christ, qui sont nouveaux chrétiens, ne rencontrent pas souvent l'épreuve du supplice. Quand par exemple tu viens à Christ, tu es tout excité, gloire à Dieu, tu viens à l'église, tu aimes la communion fraternelle, tout le monde est pour toi comme un ange. Alléluia. Mais au bout de quelques temps, à force de te frotter aux gens de ton département, ça ne commence pas à t'ennuyer. Les mêmes programmes que ton responsable faisait là, tu dis, respo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as suffisamment compris ce qu'il te disait depuis? Il y a des gens comme ça, ils vont dire, ah pasteur, est-ce que vous n'avez pas d'autres messages? Est-ce que ce que je te donnais là, est-ce que tu as mis ça en pratique? Alléluia. Est-ce que tu as suffisamment compris? Si tu n'as pas compris, comment est-ce que tu veux que je te donne de nouveaux trucs? Amen. Même les enfants, quand on éduque les enfants à la maison, est-ce que c'est des nouvelles choses que maman te présente chaque fois sur le plat? La maman ici, dites-moi nous la vérité. Quand vous donnez à manger à l'enfant, vous lui donnez des brocolis? Si c'est la poutine ou la tourtière, c'est ça que vous présentez matin, des fois midi, et puis on continue. Qu'est-ce que vous observez? Vous regardez la croissance. L'enfant dit, ah non, moi je veux manger du kebab. Oh, à la maison, tu n'as pas fait les emplettes pour le kebab. Tu dis, il faut manger quand même. Parce que ce que tu vas manger là, si tu es attentif, tu reçois, tu vas grandir de la même façon que le kebab. Amen. Dis un bon amen à Jésus, si tu as compris. C'est ça. Il dit, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Et le fils, Élisée, il était derrière son père. Il le suivait. La Bible dit que les autres fils des prophètes, ils restaient loin là-bas. Ils regardaient. Ils ne faisaient rien. Et chaque fois, il était là. Il était fidèle. Il était à ses pieds. Rien ne se passait. L'onction ne descendait pas. Pourtant, il avait été appelé à devenir prophète. Alléluia. Il y a des dimensions spirituelles dans lesquelles, c'est-à-dire, ce n'est pas l'effort d'un homme, non. Il faut que Dieu lui-même t'envoie ça. Et il faut qu'il te valide. Tu peux, sur ton appel, tu peux par exemple avoir été appelé à être un prophète ou bien un apôtre, quoi que ce soit. Et au début, tu vas être juste un serviteur dans l'église. Mais pour arriver là, il faut que Dieu te visite. Alléluia. Dis avec moi, Dieu me visite au nom de Jésus. C'est ça. Il dit, sinon cela ne t'arrivera pas. Et il est resté focalisé. Il n'a pas perdu de vue son père. Il est resté focalisé. Alléluia. Donc, la première tentation, lorsque tu passes par l'épreuve 6, c'est la banalisation. Il ne faut pas mépriser les choses. Une personne qui commence par mépriser ce qu'il ne doit pas mépriser va avoir des problèmes. Une personne qui n'honore pas ses parents, lui-même, lorsqu'il va avoir des enfants, ses enfants vont commencer, ne vont pas l'honorer, ne vont pas le respecter. Alléluia. Si tu prends ton conjoint comme ton collègue, et puis voilà, il dit une parole, toi tu en as 10, 50, ce n'est pas une bonne chose. Dieu a dit que la femme doit respecter son mari. Ce n'est pas parce que vous avez fait plusieurs années que tu vas commencer par prendre ton conjoint comme ton collègue. Alléluia. Parce qu'il y a une grâce qui doit te recouvrir pour que tu puisses entretenir ta maison, que Dieu ne peut te donner que si tu honores sa parole. Alléluia. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Chaque chose que Dieu honore, il ne faut même pas qu'à un moment donné, à cause de la proximité, tu ne commences pas à le mépriser. Parce que la proximité crée beaucoup la familiarité. Et quand on devient familier avec quelqu'un, on ne commence pas à oublier ce que Dieu dit de la personne. Et ça, tu peux tomber dans ce piège. Amen. Dis avec moi, je ne tombe pas dans le piège de la familiarité. Alléluia. Donc, et la troisième attitude que tu dois avoir, c'est de travailler à purifier ta conscience. 2 Corinthiens 10, 3, 5 dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Bien-aimés, les forteresses existent. Et les forteresses dont il parle ici, il faisait allusion aux forteresses que les militaires établissent souvent lorsqu'ils vont en campagne. Ils établissent de grandes forteresses. Qu'est-ce qu'ils font? Ces forteresses empêchent l'armée ennemie de pouvoir avoir accès à l'endroit où ils sont. Mais les forteresses ici, quand il dit, il y a des choses qui sont des blocages pour Dieu. Alléluia. À l'intérieur de chacun de nous. La peur peut être pour toi une forteresse. Oui, la peur. Jésus dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, prêchez. Aujourd'hui, l'Église peut avoir des forteresses de peur. Et ces forteresses-là empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Alléluia. Et c'est ça, il dit, nous ne combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme ça. Pour amener quelqu'un dans sa destinée, pour l'amener à vivre selon Dieu et accomplir les plans de Dieu pour sa vie, c'est des armes spirituelles qu'on utilise. À l'intérieur de ton cœur, il peut y avoir des forteresses. Et pendant que tu passes du temps dans la parole, quand tu prends la Bible, chaque parole que tu ingurgites brise une forteresse. Alléluia. C'est à cette période-là que tu laisses. C'est comme on prend un verre et puis il y a de la saleté à l'intérieur. Si tu veux enlever la saleté, tu mets l'eau. Tu ne mets pas l'eau une seule fois et puis tu dis, ah non, c'est bon, non. Tu vas avoir de l'eau, mais tu vas avoir l'état de l'eau, ça va être comment? Ça va être mélangé. Ça va être mélangé, ça ne sera pas de l'eau pure. Or, l'eau pure, vous savez, lorsque l'eau pure, parce que le revêtement de puissance ici, la Bible dit au début, lorsque Jésus a été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et quand il est sorti du désert, il a été revêtu du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est la puissance. Mais lorsque on met de l'eau dans un contenant et que cette eau, il y a de la souillure à l'intérieur, même si l'eau commence à déborder et recouvre la personne, ce ne sera pas de l'eau pure, ça va être de l'eau souillée. C'est comme ça qu'on peut, Dieu peut engendrer des gens ou bien des gens peuvent être engendrés dans une certaine position d'autorité et ces personnes-là vont être dans l'adultère, vont être dans toutes sortes de débauches. On voit des pasteurs des prophètes qui vont faire des prophéties parce qu'ils aiment l'argent. Ils commencent, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. On dit, yes, prophétise. Il dit, yes, yes, l'onction est là. Et puis, à un moment donné, on dit, ah, prophète, ce que vous dites là, il commence pas à dire, ah, Seigneur, ces prophéties-là, il faut les ralentir ici. Ou bien l'amour de l'argent. Il y a des gens qui aiment paraître. Alléluia. Si tu aimes paraître, ça veut dire que tu aimes non seulement Dieu, mais tu aimes beaucoup les hommes. Ça signifie que si les hommes ne commencent pas à te dire des choses, ça peut influencer même ce que Dieu te dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Si tu n'es pas quelqu'un en qui Dieu a traité l'amour pour l'appréciation des hommes, si Dieu te donne un certain ministère, tu peux aller même, tu vas étouffer, dans ton cœur, tu vas étouffer le message de Dieu à cause de ce que les gens disent. Tu ne vas plus faire ce que Dieu te dit, tu vas commencer par faire ce que les hommes veulent. Alléluia. Donc, le revêtement, pour qu'il ne soit pas souillé, il faut que tu passes du temps, tu laisses Dieu te remplir. Il inonde ton cœur, il remplit ton cœur, il enlève toutes sortes de souillures. Il fait en sorte que le vase est nouveau. Et ensuite, maintenant, ce que l'eau qui va jaillir de toi, le revêtement va être pur. Amen. Et c'est comme ça, on voit dans certains pays, je ne veux pas nommer les pays, ils sont revêtus, les policiers. Hein? Et puis quand tu le vois là-bas, il te dit, arrête là. Et tu dis, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est l'infraction? Il dit, est-ce que tu as 2000? Est-ce que tu as un petit 5000 à me donner? Ah, c'est un revêtement corrompu. Il a l'autorité, mais l'autorité est corrompue. Alléluia. Dis avec moi, je reçois mon revêtement au nom de Jésus. Alors, rapidement, il y a deux grandes catégories de revêtements avec lesquels nous devons travailler. Le premier revêtement ou la première manifestation de la puissance de Dieu s'appelle de l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Ok. L'autorité, c'est exactement ce dont je vous ai parlé dans le cas du policier. Lorsqu'il va se présenter devant toi, même s'il est minuscule, il est petit, ce que tu vois pour obéir à ce qu'il te dit, ce n'est pas sa personne, tu regardes l'autorité qui est derrière lui. Amen. Quand tu manques le respect à un policier, tu manques du respect à qui? À l'État de ce pays. Donc, celui dont tu as en fait peur, ce n'est pas le policier qui t'arrête. Non, c'est la législation. Quand on va t'envoyer 10 000 dollars d'amende, on t'envoie, tu es chez toi, on t'envoie une facture par la poste. Et qu'est-ce que tu vois? 400 dollars. Et quand, si tu dis, tu ne vas pas payer, on va te dire, on te suspend ton permis. Alléluia. En deuxièmement, tu dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alléluia. Donc, en matière, la première catégorie de puissance, c'est l'autorité. Et l'autorité d'un enfant de Dieu, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'ai l'autorité de Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez en mon nom. Donc, quand tu vas au nom de Jésus, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans ta vie, tu vas utiliser la première forme de puissance, la première forme de revêtement qui est déjà sur toi actuellement, qui va s'appeler l'autorité, la puissance. Et ça, c'est le mot grec qu'on va dire exousia. Dans le livre de Philippiens et Éphésiens chapitre 6, quand la Bible va nous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances de ce monde des ténèbres, il va parler là de exousia. C'est des gens qui ont la puissance, mais une puissance mandatée, liée à une institution. Alléluia. Voilà. Tu peux être dans l'église et on te nomme, tu es responsable de ceci, ceci. Ça te donne de l'autorité. Amen. Voilà. Tu peux ne pas être forcément intellectuellement brillant, etc. Tu peux ne pas avoir des capacités, mais à cause de exousia, tu auras la capacité de mettre de l'ordre dans certains événements. Amen. Et ça, tu as besoin de cette forme d'autorité. Mais la deuxième forme, et ce qui, en fait, ce que tu reçois beaucoup lorsque tu passes par l'épreuve du surplace, c'est la puissance dont la Bible va parler dans le livre de Actes chapitre 1. Allons dans Actes chapitre 1, verset 8. Tu vas ouvrir Actes chapitre 1, verset 8. D'accord, je ne sais pas si je voulais donner. Oui, donnez-moi ça. Lisons ensemble. Vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez comment? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc ici, Jésus va nous dire que quand le Saint-Esprit va survenir sur toi, quelque chose va se passer, tu vas recevoir une puissance. Et cette puissance, le mot qui va être utilisé, ce n'est pas la puissance du policier qui apparaît, non. Cette puissance-là, elle n'est pas dépendante de la façon dont tu as médité les Écritures. Tu peux être un chrétien qui médite zéro, mais juste parce que tu es chrétien, tu arrives quelque part, si tu sais, connais simplement le nom de Jésus, dès que tu dis Jésus, l'atmosphère change. Alléluia. Ça, c'est le policier corrompu, le policier véreux qui utilise son habit pour obtenir des résultats. Il ne faut pas te limiter à ça. Amen. Maintenant, ici, la puissance dont il parle, il dit quand vous recevez une puissance, cette puissance, c'est le mot grec dunamis. Dis avec moi dunamis. Dunamis, dis encore dunamis. C'est la puissance qui génère des choses. C'est la puissance créatrice. Plus tu travailles, tu reçois dunamis, tu seras capable d'utiliser exousia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'appel de Dieu sur leur vie, mais qui ne se mettent pas en action. Est-ce que vous savez ça? Dieu, tu peux rester avec Dieu pendant des mois, et ne pas bouger, même s'il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir reçu le revêtement, mais tu ne bouges pas. Tu n'es pas en action. Il te faut dunamis. Dis avec moi, il me faut dunamis. Et ce dunamis-là, tu le reçois dans le désert du surplace. Dis avec moi, je reçois le dunamis. Gloire à Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois dunamis. Tu reçois le revêtement de puissance. Alléluia. Et la quatrième clé pour y arriver, pour recevoir ce revêtement-là, c'est tu dois chercher, dis avec moi, je dois chercher à être rempli du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Alléluia. Déclare, je cherche à être rempli du Saint-Esprit jusqu'à être débordé. Ésaïe 42, verset 1 dit ceci, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Donc, Dieu ne soutient pas tous ses serviteurs. Non. Dieu va soutenir une catégorie de serviteurs. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme va prendre plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Gloire à Jésus. Est-ce que tu veux être un serviteur de Dieu? Un serviteur que Dieu soutient. Alors, si tu veux l'être, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu sur toi. Alléluia. Décide que tu vas avoir l'Esprit de Dieu sur toi. Amen. Tu dois l'avoir sur toi. Et pour l'avoir sur toi, il faut le laisser te remplir. Tu le laisses te remplir. Tu médites les Écritures. Tu médites la parole. Quand ça devient monotone, tu sens que tu es arrivé, continue. À force de continuer, le débordement s'opère. Alléluia. Le débordement se fait. Quand la parole de Dieu t'ennuie, continue de la méditer. Sature-toi. Parce que même dans les Écritures, vous allez comprendre en fait qu'il y a c'est comme plusieurs chambres. Quand tu médites à un niveau donné, il faut plus de profondeur. Alléluia. Voilà. Quand tu commences pas à buter sur les Écritures, il faut savoir que là, il y a une autre porte qui doit s'ouvrir. Et là, si tu demeures, si tu ne te relâches pas, tu vas avoir accès à cela. Alléluia. Et aussi, c'est ça, la particularité de la tentation aussi dans une épreuve de surplace, c'est le fait que tu ne commences pas à te défocaliser. La Bible dit que le peuple, dès qu'ils ont commencé pas à être au même endroit, ils ont commencé pas à se divertir. C'est là qu'on voit beaucoup de chrétiens, la prière qu'ils faisaient au début, ils ne prient plus, ils remplacent la prière parce que la prière commence pas à être ennuyeuse. Alléluia. On dit, chaque matin, on se lève à 5 heures. Et puis, on prie. C'est tout le temps la même chose. Maintenant, tu veux aller changer ça avec quoi? Tu veux changer la prière là avec... Donnez-moi le nom d'une série actuellement sur Netflix. Alléluia. Tu veux changer ça avec TikTok? Les TikTokers. Alléluia. Ou TikTokers. Voilà. Quand tu fais du surplace, il faut faire attention. C'est là que tu restes dans la présence de Dieu. Tu restes focalisé. Parce que tu veux recevoir quelque chose de puissant. Là, tu abandonnes. Il ne faut pas abandonner les choses que tu faisais. Si tu allais évangéliser, tu ne continues pas à évangéliser. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans toutes sortes de divertissements. Le divertissement va te conduire quelque part et tu vas manquer ton revêtement. Et la particularité, c'est que tous ceux qui se sont laissés divertir dans ce désert-là, quand ils se sont retrouvés, le moment est venu où ils se sont retrouvés devant les murs de Jéricho, parce qu'on va arriver maintenant à la dixième épreuve. La dixième épreuve, c'est l'épreuve de l'audace. Alléluia. On va arriver dessus bientôt. Peut-être probablement dans les prochains cultes, c'est l'épreuve de l'audace. La Bible dit ils ont commencé par trembler comme des poules mouillées. Ils ont commencé par trouver des excuses. Non, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ceci. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'onction. Ils n'avaient pas reçu le dunamis. Quand tu reçois le dunamis pour quelque chose, le dunamis te projette. Le dunamis te met en marche. Le dunamis engendre dans ton cœur une certaine disposition. Alléluia. Le dunamis, quand il arrive, il dit quand le dunamis va être là, quand le dunamis arrive sur la vie de quelqu'un, côté évangélisation, tu ne peux pas l'arrêter. Non. Tu ne peux pas. Il est tout le temps dans les rues. On va dire, telle personne, non. Ici, on ne prêche pas Jésus, on ne parle pas de Jésus. Il y a des forteresses dans le cœur des gens. Les gens ne veulent pas connaître Dieu. Mais toi, si tu as dunamis, tu vas leur prêcher Jésus. Et ils vont entendre. Ils vont comprendre. Pendant ce temps, quelqu'un là, il n'a pas réussi son épreuve de surplace. Il n'a pas laissé la parole de Dieu que toi, tu as reçue aller changer l'état de son cœur. Il est effrayé quand il voit les gens. Il n'a pas encore suffisamment consommé Jésus. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Malgré que Christ est mort pour eux, ils ont encore une personnalité hors de Jésus. Dans le sens que là où Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie que lorsque je me présente devant quelqu'un au dehors et je lui parle, ce n'est pas moi, Abraham, non. C'est Christ. Alléluia. Donc, si Christ a pris le dessus, il a pris, il est assis sur ton cœur, est-ce que tu peux avoir peur de ce que les gens vont dire de toi? Tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors, trois bénéfices immédiats du revêtement. Lorsque le revêtement vient sur toi, ce qui va se passer, la première des choses, c'est que Le revêtement va faire fuir les mauvais esprits de ton territoire. Alléluia. Comme le peuple d'Israël, devant c'est Josué et Caleb seuls, parce qu'ils sont restés avec Moïse à la montagne, ils ne se sont pas joints à ceux qui se sont laissés divertir. Josué et Caleb sont restés avec Moïse. Le moment est venu lorsqu'ils voulaient avoir accès maintenant à l'endroit où la Bible va dire qu'il y avait des géants. Il y avait des géants, des forteresses. C'est ces personnes-là, eux, ils se sentaient capables. OK? Ils se sentaient capables à faire quoi? À terrasser les géants. Quand vous voyez les gens qui abandonnent les choses qu'ils savent très bien que Dieu a dit « voici ce que je veux », ça signifie qu'ils n'ont pas réussi leur désir du surplace. Ils n'ont pas eu les bonnes attitudes. Ils n'ont pas été suffisamment purifiés dans leur conscience. Ils n'ont pas été équipés. Alléluia. C'est ça. Donc, le revêtement, lorsque le revêtement vient sur toi, quel que soit le domaine, que ce soit pour te faire avancer au niveau de tes finances, pour faire en sorte que ton foyer puisse être protégé, pour faire en sorte que ton service à l'église devienne encore plus puissant, plus glorieux, la première chose que ça va faire, c'est que ça va faire fuir les mauvais esprits de ton territoire. Ça va faire fuir les mauvais esprits. Voilà. Des fois même, tu vas sentir qu'il y a de l'opposition, mais cette opposition-là va rester loin. OK? Elle va rester loin. Elle ne va pas venir à ta porte parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose. Il y a de la distraction autour. Des choses se font pour pouvoir porter atteinte à ta vie, porter atteinte à ton évolution, porter atteinte à ce que Dieu a dit de toi. Mais ces choses vont rester loin. Ça va faire fuir les mauvais esprits. Alléluia. Quand un homme a ce revêtement-là, son foyer est dans la paix. Les disputes par-ci, etc. Tout ce qui vient pour porter atteinte à son foyer, il reçoit la capacité d'aller dessus. Alléluia. Deuxième chose, c'est que lorsque tu réussis l'épreuve du revêtement, ta voix va avoir du pouvoir. Dis avec moi, ma voix va avoir du pouvoir. Ce que tu vas dire, ça va avoir du pouvoir. Voilà. Si tu ne réussis pas, si dans ton cheminement, dans ta vie, à un moment donné, Dieu va choisir, mettre des gens autour de toi, que ce soit des collaborateurs ou que tu vas être appelé à être un pasteur, une personne que Dieu va utiliser d'une certaine façon et qu'il y aura des gens autour de toi, si tu ne réussis pas l'épreuve du revêtement, les choses ne vont pas aller. Tu vas dire une parole, les gens vont avoir du mal à suivre. Alléluia. Tu dis des choses et puis c'est comme si les gens ne veulent même pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'à des moments donnés, peut-être que tu n'as pas fait attention. Alléluia. Tu dois faire attention. Donc, un responsable dans un département doit rechercher le revêtement. Tu dois rechercher ce revêtement-là. Alléluia. Troisième chose, tu auras des ressources nécessaires à l'exercice de ta mission. Donc, un policier, il a quoi? Il va avoir accès à des outils, à des armes, à des équipements, toutes les choses qui ont rapport à l'exercice de ses fonctions à cause du revêtement, ça va venir. Amen. Si tu crées une entreprise et cette entreprise a besoin d'argent, besoin de fonds, tu cherches le revêtement pour ce domaine-là. Dès que Dieu te le donne, tu te tiens dans la prière. Dès que tu commences par prier, les ressources arrivent. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'est même pas bon de brûler les étapes avec Dieu. Parce que quand quelqu'un brûle les étapes, tu arrives quelque part où le revêtement n'est pas là. Le problème est que les choses vont avoir du mal à se réaliser. Amen. Parce que peut-être tu es caporal, et puis là où tu es en train de vouloir surfer, il faut avoir le galon colonel. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Et tu laisses la parole te purifier. À un moment donné, il change. Il va changer le vase. Et il verse un vin nouveau. Et tu ressors. Les mêmes choses que tu disais ailleurs, tu le dis maintenant. Les choses changent. Alléluia. Dis avec moi, je reçois mon revêtement au nom de Jésus. Alors on va se lever, on va prier. On va prier et tu vas déclarer, tu vas demander l'aide du Seigneur. Et si en ce moment tu passes par une épreuve du surplace, où les choses semblent ne pas avancer, tu vas parler à Jésus. Et tu vas dire, Père Céleste, donne-moi la grâce de réussir cette épreuve qui est si importante. Et si tu es une personne de destinée, tu vas rencontrer l'épreuve du surplace à plusieurs reprises. Parce qu'à chaque étape de ta vie, tu vas avoir besoin de grandir ce vase que Dieu t'a donné d'être. Et de recevoir un vin nouveau, tu vas élever ta voix, tu vas parler à ton Seigneur. Dis, Seigneur, l'appel que tu as sur ma vie est authentique. La destinée qui est sur ma vie est authentique. Et je veux, Seigneur, recevoir tout l'équipement dont j'aurai besoin pour réussir mon appel sur la terre. Je m'attends à toi. Oui, chaque fois, Père, que je ferai un pas de plus. Donne-moi, Père, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui étaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais qui s'est humilié, il s'est dépouillé, en se faisant semblable à un homme. Oui, et il est venu mourir, oui, d'une mort, oui, Seigneur, la mort de la croix, il s'est sacrifié, parce qu'il savait qu'à partir, oui, de ce sacrifice, il recevrait un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et à cause de ce nom qu'il a reçu, les choses aujourd'hui bougent en son nom. C'est en son nom que nous sommes capables de prier et de recevoir l'exaucement à tous nos besoins. De la même manière, Père, en tant que tes enfants, tu nous donnes, Seigneur, de posséder des trésors sur la terre. Tu nous donnes de prendre soin, Seigneur, de nos familles. Tu nous donnes de pouvoir réaliser des projets, d'accomplir des plans que toi tu as préparés avant la fondation du monde. Mais les vases que nous sommes peuvent être un handicap à la réalisation de tes plans et de tes desseins. Accorde-nous la grâce, Père, d'avoir la bonne pensée, la bonne disposition de cœur, afin d'être équipés, renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Nous voulons, Seigneur, ne pas céder à la banalisation. Oui, tant que le jour se lèvera, oui, nous voulons honorer ce que toi tu honores. À aucun moment nous ne voulons manquer de respect à ce que toi tu tiens en honneur, Père. Comme les fils d'Élie qui ont commencé par mépriser ce que toi tu prenais pour sacré. Qu'à aucun moment, Seigneur, même ta présence, nous ne soyons tellement familiers que nous la prenons pour quelque chose de méprisable. Maïde into undelike, indos fai de l'autre et de like. Ô Père céleste, accorde-nous de pouvoir, Seigneur, recevoir, oui, le revêtement divin, le revêtement de gloire. Que les situations autour de nous, Père, oui, soient disciplinées à cause de ta présence sur nous. Oh, tu accordes, Seigneur, oui, cette présence sur nous en fonction de la façon dont nous avons été remplis de ta parole. Oui, Père, donne-nous la discipline de cœur de nous tenir dans ta présence, dans tes parvis, de ne pas nous laisser distraire, parce qu'à chaque saison de nos vies, tu veux accomplir quelque chose de nouveau pour l'avènement de ton règne. Tu nous fais, Seigneur, participants, oui, de ton œuvre sur la terre. Et nous voulons, Seigneur, recevoir l'équipement qu'il faut pour faire ce que tu veux que nous fassions. Père céleste, tu m'as dit, oui, que si l'Église, oui, n'arrive pas à recevoir le réveil qui est si nécessaire pour le salut de toute une nation, c'est parce qu'elle a commencé par banaliser, elle a commencé par mépriser, oui, les choses que toi tu as dit qu'elles doivent être honorées. Quand l'Église abandonne les temps de prière, quand l'Église prend les temps de prière juste pour recevoir les exaucements à ses besoins et non pour rechercher véritablement que ton règne vienne sur la terre, à ce moment, elle manque de puissance, elle manque du revêtement qui sera puissant, capable de briser les forteresses qui environnent, oui, sa vie sur la terre. Alors, Père céleste, pendant que nous sommes là à cette épreuve et que nous parlons, Seigneur, de ce temps, Seigneur, oui, purifie nos consciences. Donne-nous d'être attirés vers toi, Père. Accorde-nous de pouvoir, Seigneur, t'attendre et de recevoir, Père, les revêtements dont nous avons besoin pour que les événements de nos vies, chaque chose qui concerne nos vies, Seigneur, puisse rentrer dans l'ordre. Que quiconque ici, Père, a besoin d'un revêtement pour rentrer, Seigneur, pleinement dans une nouvelle dimension de sa vie, le reçoive au nom de Jésus. Je prie, Père, que le revêtement nécessaire pour opérer dans une dimension professionnelle plus grande soit accordé. Que lorsque tu parleras à ta situation professionnelle, les choses commencent par bouger au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père, que tout couple, tout foyer qui fait l'épreuve, qui passe par l'épreuve de la monotonie, où les choses commencent par sembler fades, où on commence par s'ennuyer, Seigneur, que ta grâce, que le vin nouveau, le vin qui vient pour désaltérer, le vin qui vient pour transformer, Seigneur, les situations amères en une autre dimension de joie et de paix. Que ce vin nouveau soit accordé au nom de Jésus. Accorde plus de vision, accorde plus de profondeur, accorde, Seigneur, une complicité entre les partenaires. Que, Seigneur, les enfants puissent grandir au sein d'un couple qui, de plus en plus, découvre quel est le plan que tu as pour lui, Père. Et que chacun des partenaires ne soit, Seigneur, privé du revêtement. Que la banalisation, quiconque avait été recouvert d'un avis d'opprobre, parce qu'il s'était enflé d'orgueil et a manqué le respect par rapport à son conjoint. Seigneur, accorde que cet habit d'opprobre soit ôté au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que ton revêtement de joie, ton revêtement de faveur pour éduquer les enfants, pour conduire ce couple dans la destinée que tu as pour lui, puisse être accordé. Béni sois-tu pour la vie de chacun de tes enfants. Oui, je prie pour les serviteurs dans les départements, que tu accordes à chaque responsable d'être revêtu, afin que les serviteurs puissent pouvoir recevoir les instructions et les comprendre selon la pensée, les charges qui ont été accordées aux responsables, et que toute chose se fasse au nom de Jésus-Christ. Quiconque a banalisé, a méprisé une autorité et qui a fait en sorte que sur sa vie repose une certaine forme de déchéance spirituelle au niveau du revêtement, que, Seigneur, ton sang parle en sa faveur, Père Céleste. Que, Seigneur, tu pardonnes l'iniquité, tu pardonnes le péché et que tu accordes ta grâce et ta bénédiction dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Alors, tu vas acclamer le Seigneur. Acclame ton Dieu. Merci, Seigneur. Et nous allons nous rasseoir pour le moment des offrandes.